Championnat, comment ça va? Attendez deux secondes. Service après-vente de Mission Japon, j'écoute. Oui. Oui, l'homme cochon patate. On n'a pas son numéro. Ouais, j'avoue qu'il est assez sexy quand même. Ouais. On rappelle, allez, ciao. Donc oui, bonjour. Donc nous sommes de nouveau ici pour un live Mon Japon numéro 2. Donc aujourd'hui, nous allons parler de parcs d'attractions japonais. Et pour cela, je suis avec mon comparse, mon compagnon d'aventure, David.
Bonjour tout le monde, bonjour les japonautes et bonjour les parconautes également, puisqu'aujourd'hui on va mixer un peu deux de nos passions, d'un côté le Japon, de l'autre côté les parcs d'attractions, et on va avoir deux invités, Yves Mérienne qu'on va accueillir dans quelques instants, et Jean-Marc Toussaint qu'on retrouvera dans la deuxième partie du live. Yves, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien.
Alors, on va faire une petite présentation. Pourquoi tu es là? Pourquoi on a choisi de te laisser la parole? Et puis surtout, on te remercie d'avoir accepté de venir avec nous sur ce live. Alors Yves, tu es un passionné de parcs depuis ton enfance. Tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, ça peut arriver éventuellement. Tu découvres tout minot l'existence du Disneyland originel, celui de Californie, grâce à quelques photos aperçues dans l'encyclopédie Tout l'univers. En avril 1979, tu visites pour la première fois un parc d'attractions fraîchement ouvert qui s'appelle Avenirland, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Walibi Rhône-Alpes. Dans les années 90, tu multiplies les voyages en Europe et aux États-Unis pour découvrir de nouveaux parcs. Tu rencontres à ce moment-là pas mal de passionnés de parcs qu'on appellera à cette époque-là soit des parconautes, soit des parkfans. Je sais pas quelle est l'appellation que tu préfères.
Parkfan, parconautes, passionnés.
Passionnés de parcs. Et l'idée te vient de réunir tout ce petit monde autour de leur passion commune. Tu fondes donc l'association Parc Passion en 2002. Qui est aujourd'hui l'association de passionnés des parcs la plus importante en France, peut-être la seule d'ailleurs, je ne sais pas.
C'est la seule.
C'est la seule, donc la plus importante de fait. Et en novembre 2015, tu te rends au Japon pour la première fois, et bien évidemment ce voyage du Japon va t'amener à découvrir quelques parcs.
Il y a
des petits problèmes techniques, tu es de temps en temps en Hulk, de temps en temps en banner, mais bon, c'est peut-être pas si grave que ça.
C'est les aléas du direct.
Et donc ça m'amène à ma première question, pourquoi as-tu attendu si longtemps, alors que tu es fan depuis tout jeune, pour aller visiter les parcs d'attractions japonais?
C'est le Japon en fait, au départ, c'est peur, quelque part, pour pas mal de gens. C'est une destination qui est lointaine, c'est une destination qui est un peu exotique, et c'est vrai que la culture japonaise, on la connaît qu'avec les sushis en France et... quelques geishas, etc. Mais on n'a pas du tout la notion de ce qu'est cette culture-là. Et bah, du coup, c'est un peu, on a un peu peur pour la langue, on a un peu peur pour pas mal de choses. Et bah, en fin de compte, bah non, pas du tout, au contraire.
Et alors justement, malgré toutes ces peurs, tu as sauté le pas. Qu'est-ce qui a été le déclic hein?
Le déclic, c'est que j'ai eu des fans, des fans qui sont allés. Que je connais bien et qui m'ont dit mais vas-y parce que tu verras, tu te sentiras tout à fait bien tout de suite. Après bon, au niveau des parcs, c'est vrai que on a le gros avantage, c'est qu'on connaît le fonctionnement des parcs et quel que soit le pays, c'est à peu près le même. Donc et puis la destination de Tokyo faisait rêver, notamment avec Tokyo Disney Sea, qui est considéré pour la communauté des fans le plus beau parc en termes de thématisation au monde, le plus beau. Et je voulais voir là si c'était vrai, parce qu'une réputation, il faut quand même vérifier si c'est vrai. Et j'y suis allé, et là je peux dire que c'est tout à fait vrai.
Alors c'est vrai que c'est ce qui a conduit notre choix à visiter plutôt Tokyo, c'est le cas de le dire plutôt, Tokyo Disney Sea plutôt que le Disneyland Magic Kingdom, hein, puisqu'il y a deux parcs dans le Tokyo Disney Resort. C'est effectivement le parc le plus coté au monde, en tout cas dans les parcs Disney. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un nouveau parc Disneyland de Shanghai qui s'est ouvert. Est-ce que il n'y aurait pas une tendance à ce que ça change et que Tokyo DisneySea devienne le deuxième plus beau parc Disney?
J'espère que non, parce que je pense que le parc Tokyo DisneySea a été conçu à l'époque où Disney mettait un peu des freins au niveau du développement et voulait mettre peu d'argent pour faire bien. Et en fait, comme le parc de Tokyo DisneySea appartient en fait à une compagnie japonaise, ils ont juste les droits d'image, ils ont dépensé l'argent sans compter, parce que le premier parc fonctionnait très très bien à l'époque. Et là, les Imagineurs, qui, quand on leur donne les moyens de faire quelque chose, ils ont développé un parc à leur image, ce qu'ils souhaitaient. Et aujourd'hui, c'est vrai que Shanghai Disneyland est un grand parc. En même temps, il y a quelques nouveautés qui sont intéressantes. Mais après, on retrouve la même structure que le parc Disney classique. Et il est vrai qu'ils ont eu aussi quelques problèmes financiers parce qu'il a fallu remettre un petit peu de l'argent sur ce parc-là. Après, moi, je sais que fin mai, je vais aller voir Shanghai Disneyland. Comme ça, je vais pouvoir enfin me faire une opinion. Donc, après, c'est vrai que Tokyo, pour l'instant, reste toujours pour moi le premier.
D'accord. Peux-tu nous raconter justement tes découvertes? Tu es arrivé donc à Tokyo, on va parler exclusivement de parcs d'attractions. Tu n'as visité que le ou les parcs Disney?
Oui, ce voyage-là, j'ai fait que Tokyo. Je suis resté à Tokyo pendant 10 jours. Globalement, je ne me suis pas du tout ennuyé. Je me suis senti même très très bien, un peu comme chez moi. C'est étonnant parce que c'est une ville qui est un peu mégapole et en même temps me faisait un peu peur parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime bien les villes, je préfère la campagne, mais là j'étais très très surpris. Et en fait on avait pris un pass 3 jours pour Disney, donc une journée au Disneyland, 2 jours à DisneySea. Et on était tellement subjugués avec la personne avec qui j'étais, un ami qui aussi adore les parcs, du coup on a racheté un ticket supplémentaire pour refaire une journée juste avant de partir pour garder ce souvenir de ce parc qui était merveilleux. Et donc du coup et la culture japonaise, le personnel, les gens, les Japonais sont tellement agréables et tellement gentils que déjà dans les parcs en général les casques, les personnes qui travaillent nous accueillent bien, mais là c'est encore le summum et on ne peut être que bien accueilli et que bien dans ce parc.
Est-ce que tu as eu des surprises, des choses étonnantes auxquelles tu ne t'attendais pas?
Ce que je ne m'attendais pas, c'est d'avoir la qualité de la thématisation du parc, en fait. Parce que j'arrêtais, tous les maîtres m'arrêtaient pour prendre une photo. Il n'y a pas un seul détail qui cloche. C'est vraiment au niveau de la thématisation du décor, c'est flamboyant, c'est magnifique, c'est quelque chose qu'on... En tant que passionné, on espère voir dans un parc, et là qu'on voit en réalité.
C'est marrant parce que moi j'ai eu quand même ce sentiment dans ce parc-là d'être finalement plus dans un parc Universal que dans un parc Disney. Est-ce que tu as eu la même sensation?
Alors, je pense qu'en termes d'attractions, ces attractions sont souvent originales, même si elles sont certaines ne sont pas originales, mais ont été rethématisées d'une façon très, très poussée. C'est vrai qu'il y a des attractions qui sont tout à fait intéressantes, puisque des parcs Universal, souvent c'est la technologie qui prime, avec de plus en plus quand même du décor, faut reconnaître ça, notamment même au Japon, même si je ne connais pas, j'ai vu un petit peu les vidéos, et aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on arrive à un mix entre la thématisation et la technologie, qui est très intéressante au niveau de ce parc-là. Je pense qu'on garde quand même le côté Disney avec les personnages, avec Duffy qui est le personnage principal du parc, qui est assez étonnant pour nous parce qu'en fait Duffy n'est pas du tout représenté en France et même aux États-Unis et c'est un personnage très mineur, je dirais. Là, vraiment, ça inclut ça pour eux, il y a même un land Duffy.
Donc c'est un petit nounours.
Oui, c'est un petit nounours, oui, tout à fait. Donc, je pense que ça adapte bien la culture japonaise. Et voilà, donc c'était quelque chose de particulier. C'est ce qui m'a un petit peu aussi, pas choqué, mais j'étais un peu étonné de voir que ce personnage-là se développe assez fortement au Japon. Voilà. Après, il y a aussi la nourriture dans le parc. C'était c'est extraordinaire. Si on veut manger japonais, parce que c'est des trucs tout à fait raisonnables et tout à fait...
Ouais, nous, on a eu une mauvaise expérience en bouffe, donc on peut pas dire. On a eu un bon restaurant, un moins bon restaurant, donc c'était 50-50. Sylvain, tu as peut-être des questions ?
Alors oui, il y a une question de Christian Varetz qui demande, y a-t-il des attractions à sensation ?
Alors à sensation, oui. Alors à Disney, il ne faut pas s'attendre à avoir des 4G, des, enfin, plein de choses qui vont secouer le corps. Par contre, on a il y a des attractions qui sont comme Journée au centre de la Terre, c'est une attraction qui est un peu un dark ride, mais en même temps avec un petit peu style coaster, qui est original, qui est unique au monde, et qui est en plus dans un land qui est magnifique, parce que c'est l'univers de Jules Verne, ce qu'on n'a pas eu à Disney Paris, parce qu'à Disney Paris, on a eu un petit peu le...
Et qu'on aime dans son bois.
Et là, Journée à Terre, c'est magnifique. Après, je dirais qu'il y a des coups de cœur, comme Sinbad avec le petit personnage qui chante. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui est tranquille, hein. C'est un boat ride, hein, donc c'est un petit bateau qui passe sur l'eau. Mais il y a le côté magique de Disney, la musique, le personnage. Ça, c'était aussi complètement à l'opposé, mais assez prenant. Après, au niveau de sensation, bon, il y a une tour de terreur, mais qui est un petit peu différente de Paris. Par contre, là, la thématisation est très intéressante et cache un peu les défauts de la tour à Paris, notamment. Après, bon, il y a un coaster qui ressemble un petit peu à Indiana Jones en France, qui est plus thématisé, voilà, qui apporte un peu plus. Mais globalement, c'est vrai que c'est pas des sensations très très fortes. Il faut, je pense, aller plutôt à Osaka, à Universal, où là, il y a des coasters, des vrais coasters, enfin, ce qu'on peut appeler des coasters, où là, il y a quand même plus de sensations.
Oui, c'est d'ailleurs étonnant que, en tant que fan de parc, tu n'aies fait que Disney, qui est un type de parc, effectivement, en termes de thématisation, ce sont parmi les meilleurs, hein, mais que tu n'aies pas osé, je ne sais pas, c'est le terme, faire Fuji-Q Island, par exemple.
Hein. Alors... on avait fait 10 jours, c'était le parc, et en même temps, c'était vraiment pour découvrir aussi Tokyo et découvrir un peu ce monde-là qui était, pour moi, inconnu. Mmh. Et du coup, j'ai pu m'imprégner un peu plus du Japon. Et donc là, avec l'association Parc Passion, du coup, on organise pour 2018, pour fin 2018, un voyage où là, on va faire on va déjà faire une petite escale à Shanghai Disneyland, parce que tant qu'à faire, autant faire un petit arrêt. Mmh. Et après, on va faire donc Universal à Osaka. On va faire aussi Nagashima et on va faire aussi Fuji-Q Island et bien sûr Tokyo. Voilà, donc ça va être 15 jours. Là, ça va être parc avec quelques petites journées de voyage découverte. Donc là, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir découvrir ce parc-là, qui est très tourné coaster quand même.
D'ailleurs, on a juste effleuré le parc Passion tout à l'heure, hein, mais parc Passion, le but du jeu, c'est justement de permettre d'organiser des voyages groupés de fans de parcs d'attractions. Jusqu'à présent, c'était surtout en Europe et aux États-Unis que ça se passait, et donc tu l'annonces, et effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour la première fois, l'Asie va être une destination. 2018, parce qu'il faut du temps pour organiser un voyage comme celui-là.
Alors il faut du temps parce qu'en fait quand on est à 3 ou 4, on peut s'organiser d'une façon un peu plus, je dirais, facile, on prend pas la tête. Quand on a 30 ou 40 personnes, il faut assurer un certain niveau de qualité pour pas perdre les gens, pour qu'on ait tous le même train. Mmh. En fait, au Japon, tout fonctionne par train, bon, ce qui est très remarquable parce que c'est au niveau de la seconde près. Donc ça, c'est très pratique. Mais il faut quand même prévoir un petit peu à l'avance. Et puis, il faut aussi, trouver le bon moment au niveau du parc. Après, il y a le côté financier, parce que c'est un coût, un voyage. Et donc, nous, on demande en fait aux passionnés qui veulent s'inscrire de payer régulièrement tous les mois un petit peu à l'avance, ce qui permet, nous, de pouvoir réserver les hôtels, de pouvoir avancer l'argent aussi au niveau des avions, etc. Et après, donc, les personnes, quand ils partent en vacances, ils partent avec nous, bah, ils sont, le voyage est presque payé globalement. Voilà. C'était impératif parce qu'après 2020, il y a le Jeux Olympiques. Ça a essayé d'avoir beaucoup de monde au niveau du Japon. Et je pense que là, au niveau de l'accueil des Européens, enfin des étrangers, je pense que le Japon est de plus en plus, a fourni des armes avec en anglais, enfin beaucoup de choses hein, qui sont pratiques pour nous et qui permettent de faire un voyage tout à fait intéressant.
Quand vous organisez ce genre de voyage, et donc ma question va porter également sur ce voyage de 2018, est-ce que vous contactez les parcs d'attractions pour éventuellement avoir des petits plus, une attraction qui s'ouvre spécialement pour vous une demi-heure avant l'ouverture du parc par exemple hein?
Alors, en général, oui, on le fait systématiquement. Mm-hmm. Donc quand on était parti aux États-Unis en 2012, on avait contacté tous les parcs, on a pu avoir à sur 80% des parcs, soit un ride, un ERT, donc c'est, je dirais, c'est une heure de coaster gratuit en plus jusque pendant la fermeture du parc, ou des visites des backstage, ou un accueil personnalisé. Alors au Japon, avec Disney, et bon, c'est plus compliqué. Après les autres parcs, on va les contacter de toute façon. Après, c'est vrai que tout ce qui est Universal et Disney, souvent, ce sont des grosses sociétés et les groupes comme ça, c'est pas du tout, genre, enfin, bon, ça les intéresse pas tant que ça. Alors qu'au Japon, en plus, c'est après, je dirais, c'est quand même c'est des parcs qui accueillent beaucoup de Japonais. Voilà. Mmh. Donc, les étrangers, ils vont très peu, sauf à Tokyo quand même, qui est à Disney, quand même, c'est important. Donc, on va essayer de le faire. C'est vrai que, bon, on peut toujours espérer quelque chose de particulier. Voilà, mais c'est vrai que dans les autres, en Europe, on le fait systématiquement, on a toujours quelque chose. Aux États-Unis, on l'avait fait, on a eu quelque chose, donc je me dis pourquoi pas, il faut toujours tenter.
Si ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ont envie de participer à ce voyage, je suppose qu'il faut être adhérent à l'association.
Oui, il faut être adhérent, ça coûte 17 euros.
Par an.
Par an, et vous avez aussi, alors, vous avez aussi un magazine papier, un vrai magazine papier, qui est donc la semestrielle, et qui permet de donner un peu l'actualité des parcs, faire des reportages qu'on trouve pas sur Internet, et qui permet d'avoir un lien avec l'adhérent. Il suffit d'adhérer, et après, derrière, vous avez la possibilité de faire les activités, que ce soit les week-ends Airfan qu'on fait en septembre dans les parcs. C'est souvent un week-end, des journées aussi dans les parcs. Là, on va faire l'Assemblée Générale au Futuroscope. Mmh. Où on est accueilli, on a une salle pour faire notre Assemblée Générale et on va pouvoir visiter le parc dans des conditions tout à fait intéressantes.
Pour adhérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un site internet? Vous avez.
Oui. Il y a un site internet qui s'appelle parkpassion.org, alors parc avec un S, parce qu'il y a plusieurs parcs.
On mettra le lien dans la description.
.org. Et du coup, vous adhérez, ça se fait automatiquement par internet, et puis vous avez tous les éléments dessus.
D'accord. Là, je vais faire appel, non pas à moins que Sylvain, tu aies peut-être des questions qui viennent du chat.
Oui, j'ai une question de « En passant par le Japon ». Qui demande si Universal Studios Osaka vaut vraiment le coup au vu de l'entrée du prix qui n'est pas donné.
Alors, moi je ne l'ai pas fait, mais toutes les personnes avec qui je discute qui l'ont fait, en tant que passionné de parc, ça vaut le coup de le faire. Alors, il est vrai que le coût est élevé et en plus, il faut prendre un fast track, enfin un pass pour pouvoir doubler tout le monde parce qu'en fait, c'est un parc qui est assez blindé, semble-t-il. Par contre, il a des attractions qui n'existent plus aux États-Unis et des nouvelles attractions qu'on retrouve un peu aux États-Unis avec quelques nouveaux coasters aussi qui sont uniques. Donc, en tant que passionné, je pense que c'est on est obligé d'y aller. Voilà. Après, c'est vrai que peut-être en famille, pour des gens qui sont pas super passionnés de parc, si à choisir, vaut mieux aller à Tokyo Disney. C'est quand même le parc le plus beau et le plus intéressant.
Il y a d'autres parcs dont tu as entendu parler au Japon qui mériteraient qu'on en parle hein.
Alors, pas trop, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de parcs, en fait, au Japon. Hein. Bon, c'est des petits parcs avec quelques petits coasters par-ci, par-là. Il y a, notamment à Tokyo, il y a des endroits déserts, un peu de différentes activités. Donc, des fois, il y a un coaster qui est là, donc on paye au coaster. Après, il y a d'autres parcs un peu dans tout le Japon. Mais c'est vrai que c'est, j'ai pas trop encore détaillé, et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, je pense, qui ont dû faire beaucoup plus de parcs que moi. Et là, c'est ce qu'on appelle la chasse au crédit, c'est-à-dire de faire un coaster, on rentre dans le parc, on fait le coaster, et après on part. Moi, je suis pas trop dans ce style-là, passer la journée, une journée quand même dans un parc.
Oui, là, c'est vraiment, c'est plus des fans de roller coaster que des fans de parcs d'attractions, on va dire.
Tout à fait, voilà. Après, au Japon, le souci, c'est pour acheter des billets, notamment à Universal, hein, puisque ça passe tout par le site qui est un peu japonais parfois, donc c'est un peu compliqué. Et après, à Tokyo, Disney Sea, à Tokyo Disneyland, aussi le site, bon là c'est en anglais, c'est plus facile, mais par contre, il faut donner sa date du jour où on veut venir. C'est un parc qui a beaucoup beaucoup de monde, donc en fait ils sont obligés de réduire un petit peu la venue des parcs, des fans. Donc là c'est aussi important de prévoir sa journée dans les parcs, y compris ici à Universal, parce que c'est un parc qui est assez blindé quand même.
Oui, on disait hier lors du live post-épisode qu'il y avait 30 millions de visiteurs par an, ce qui est absolument énorme hein, pour les deux parcs Disney de Tokyo. Sylvain ?
Oui, alors j'ai posé une petite question, là pour changer un peu des habitudes. J'ai posé moi une question aux personnes, quel est le parc qu'ils aimeraient visiter ou qu'ils ont le plus préféré au Japon. Alors j'ai Gaijin Girl qui me dit Fuji Q.
C'est un parc essentiellement d'attraction à sensation, et je crois même qu'ils ont un, je sais pas si c'est un hôpital de la terreur, qui paraît-il est assez impressionnant. Peut-être qu'on en parlera avec Jean-Marc tout à l'heure. Hein.
Il y a Pakun qui nous dit si j'en avais un à visiter, ce serait Universal, car il n'y en a pas chez nous. Gaijin Girl Tokyo nous dit j'ai fait Disney en décembre, mais j'aime les sensations. En passant par le Japon, encore tenté aucun, mais Universal Studio en mars, je pense. Nihon no Kuni qui dit j'aimerais faire Disney Universal. Et ensuite, après, j'ai des questions. On parle aussi au Tokyo Dome. Il y a un coaster qui a l'air impressionnant.
Ouais, c'est vrai. Qu'on voulait faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire.
J'ai une question de Abrico Vlog. C'est pas vraiment par rapport au Japon, mais je vais la poser quand même. Quelqu'un sait s'il y a des parcs qui valent le détour en Thaïlande?
Peut-être que Jean-Marc pourra répondre à ma place.
Bon, on garde la question. On la posera ensuite.
La Highland, faire attention, c'est le souci, parce que dès qu'il pleut, il y a un petit peu d'orage, ils arrêtent tout. Ah oui. Donc, ça peut des fois gâcher la journée. Il faut faire attention le jour où vous y allez, parce qu'en fait, il faut vraiment faire attention au niveau du temps. Parce que dès qu'il y a la moindre goutte, ils arrêtent les coasters. Donc là, après, il n'y a plus grand chose à faire, malheureusement.
Donc, il faut éviter la saison des pluies.
Voilà. Ou alors, même quand il y a un orage, tout de suite, bon, ils sont pas loin de... Donc, c'est un peu compliqué pour faire une journée intéressante.
D'accord, Sylvain.
J'ai Gaijin Girl Tokyo qui dit pas mal de parcs avec des thèmes Sanrio, Edo, Wonderland. Et on a Yajas qui dit Edo, Wonderland, j'adorais celui de Nico.
D'accord. Oui, il y a Inokiki, enfin voilà, donc il y a tout l'univers aussi du Japon. Il faut savoir qu'à Universal, il va y avoir bientôt Mario Bros. Enfin, il va y avoir un Land Mario qui a été lancé, qui va démarrer prochainement. Donc, il faut attendre, je pense, deux ans et demi.
Ils peuvent aller vite, les Japonais. Hein. Effectivement, ils ont signé un contrat avec Nintendo, ce qui est quand même assez étonnant. Peut-être la dernière question, sauf qu'il y en a d'autres sur le chat. On l'a un peu effleuré tout à l'heure, mais pour globaliser un petit peu tout ça, quels sont tes conseils? Alors, ça peut être pour les parcs au Japon, mais ça peut être pour les parcs en général. Quels sont tes conseils pour profiter au mieux d'une journée dans un parc d'attractions?
Alors, en règle générale, il faut arriver très tôt. Il faut arriver à l'ouverture, même un petit peu avant, hein, puisque souvent le parc ouvre un petit peu avant l'ouverture officielle, ce qui permet d'avancer et puis de pouvoir faire les premières attractions. Il faut aller faire les Enfin, faut aller tout de suite aux premières attractions qui sont les plus cotées dans le parc. Souvent, c'est un peu au fond du parc. Enfin, voilà. Donc, il faut pas hésiter à y aller tout de suite. Après, derrière, je pense qu'il faut soit manger un petit peu avant l'heure du midi en général, hein, mais ça, c'est plutôt côté européen parce qu'aux États-Unis, ils mangent tout le temps. Éviter la foule. Et après, plutôt dans le début d'après-midi, de profiter des spectacles avec pour pouvoir se reposer et après refaire un peu les attractions. Après, au niveau de Disney, il y a quand même des fast-pass qui permettent de pouvoir rentrer plus facilement dans le parc. Ce qu'il faut savoir, il y a un spectacle qui est assez drôle, parce qu'en fait, c'est Broadway, mais c'est Mickey qui joue de la batterie. Enfin, il joue vraiment de la batterie. Et là, par contre, le spectacle, il y a un tirage au sort en général quand il y a du monde. C'est-à-dire, si vous avez une machine, vous mettez votre ticket et on vous dit si vous avez gagné une place ou deux. Enfin, vous demandez le nombre de places que vous voulez. Soit vous avez gagné des places, soit vous avez perdu. Et là, vous avez droit à un ticket pour pouvoir rentrer dans le spectacle.
Ah ouais.
Donc, c'est quelque chose qui est assez particulier. Mmh. Donc, il y a la même chose aussi au Disneyland, au parc Disneyland pour un spectacle aussi où il y a un tirage au sort. Donc parce qu'en fait il n'y a pas assez de place et il y a trop de demandes, donc du coup les gens sont obligés de faire un tirage au sort. Donc bon, moi j'ai eu la chance de pouvoir voir des places. Mmh. Bon, c'est assez drôle, assez marrant, c'est bien fait, hein, c'est voilà, mais c'est du côté américain, du côté du monde américain, il faut les faire tous son passe-passe.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sylvain?
Pas pour le moment. Ah si, j'ai une remarque de Gaijin Girl Tokyo qui dit « Pour l'hôpital à Fuji-Q Island, je confirme, c'est une énorme maison hantée. »
Il paraît que c'est assez gore, assez... Mais on en parlera très certainement avec Jean-Marc. Yves, je te remercie d'avoir accepté d'être avec nous le dimanche matin de bonne heure.
Là, je vais retrouver mes passionnés.
Oui, donc on va te laisser. Hein. Effectivement, tu nous avais dit que tu devais partir assez rapidement. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On mettra dans la description le lien pour ceux qui sont intéressés pour découvrir Parc Passion, s'ils souhaitent adhérer et participer à ce grand voyage en 2018 qui passera par le Japon et par la Chine, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Yves, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Alors, le temps que Sylvain fasse œuvre de technique et appelle Jean-Marc Toussaint, je rappelle à ceux qui ne le savent pas que le dernier épisode, l'épisode 9 de Mission Japon, se passe à Tokyo Disney Sea, on en parlait, et qu'il a été mis en ligne jeudi, et que vous pouvez aller le voir, si vous ne l'avez pas encore vu, sur notre chaîne YouTube, bah, celle sur laquelle vous êtes. Et on retrouve Jean-Marc Toussaint. Bonjour Jean-Marc.
Salut David et Sylvain.
Tu vas bien ?
Oh, super, comme un dimanche matin.
Bon.
Merci les gars, super.
On t'a fait lever de bonheur. Alors comme pour Yves, bah, je vais me permettre de te présenter. Malgré qu'il soit difficile de te coller une étiquette, tant les cordes à ton arc sont multiples. Donc tu es consultant créatif, ce qu'en français on appelle concept designer d'attraction. Tu es également illustrateur, scénographe, producteur, plein d'autres choses encore. Tu as travaillé dans les effets spéciaux. En 1994, tu as choisi de mettre toute ton expérience au service des parcs. Et tu as depuis travaillé avec de nombreuses sociétés dans le monde sous la bannière de Amusement, Attraction et Design. Tu remarqueras mon accent anglais, formidable. Parmi tes nombreux faits d'armes, on retrouve une collaboration avec le parc Astérix pour la conception de la trace du Hurrah et du Transdémonium. C'est toi qui es à l'origine de la thématisation et de l'histoire, de la scénographie de ces deux attractions-là. Tu as fait encore pas mal d'autres choses. Tu as notamment travaillé à la réhabilitation du parc Dreamland, alors celui du Royaume-Uni, Dreamland, oui. Margaret, pas celui du Japon, Nara Dreamland.
Oui, celui-là, malheureusement, la réhabilitation s'est mal barrée. Hein.
Oui, puisque en fait, le parc qui était un endroit pour les fans d'Urbex depuis quelques années vient d'être en octobre dernier détruit et la destruction prendra 14 mois. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est bah, finalement, tu ne pouvais pas être partout alors.
Alors c'est le problème, j'ai pas le don d'ubiquité et les journées ne font que 24 heures hélas, et puis l'âge aidant ça devient un petit peu difficile de multiplier les choses, c'est pour ça que j'ai un petit peu réduit la voilure en termes de conseils sur les parcs où je ne travaille maintenant qu'avec les gens que je connais très très bien sur des projets plus petits. Ce qui me permet de vraiment me concentrer sur des problèmes bien précis, bien pointus. J'en veux pour exemple, l'année dernière, j'ai travaillé avec le parc Babylone, qui est en région parisienne, qui est tenu par des amis, et on a travaillé à dessiner les toilettes, par exemple. Mmh. C'est pas super sexy, mais ça fait aussi partie du travail de concepteur de parc de loisirs.
Je me souviens d'ailleurs d'une visite au parc Astérix où on avait compté toutes les toilettes du parc puisqu'on était ensemble sur un projet de parc qui malheureusement n'a pas eu le jour. C'était assez rigolo, c'était assez folklorique. Je te pose une question qu'on nous a posée tout à l'heure sur le chat avant de continuer, qui concernait les parcs en Thaïlande. Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu en as déjà visité?
Alors, je ne suis jamais allé en Thaïlande. Mmh. Ce que je sais des parcs, c'est qu'il y a quand même pas mal de parcs aquatiques. Et des amis qui sont pas fans de parcs, mais assez amateurs, on en a visité quelques-uns et n'ont pas été très, très impressionnés. Hein. Il y a souvent des coasters en métal de fabrication japonaise qui ne sont pas super confortables et pas grand-chose d'autre. Mmh.
Tu as déjà travaillé pour un parc japonais?
Non, j'ai jamais eu la possibilité. Là, je viens d'être contacté par un site en Asie, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Okay. Mais comme on est plusieurs en compétition sur le projet, je ne sais pas si je vais continuer. Mais voilà, c'est effectivement travailler pour un site en Asie. Plus proche où je sois allé, finalement, c'est la Russie, puisque j'ai travaillé pendant quelques années pour Pax Design, donc la société qui construisait des montagnes russes. Maintenant, ils font surtout des grandes roues. Et on a fait ensemble... Un parc sur les côtes de la mer Noire qui aujourd'hui est fermé. C'est aussi des choses qui arrivent quand on travaille dans les parcs de loisirs. Hein. Quand un site n'est plus rentable, ben on le ferme. Et donc c'est le plus proche de l'Asie où je sois allé travailler.
Et c'est quelque chose que tu aurais aimé ou pas?
Travailler en Asie?
Ouais.
Oui, bien sûr, ouais, pour le challenge créatif, pour le caractère exotique. Si c'est au Japon, à plus forte raison, ça m'excite encore plus parce que c'est vraiment un pays que j'adore. Mmh. Maintenant, voilà, c'est vraiment le choc des cultures parce qu'on n'a pas du tout la même approche des choses, on n'a pas du tout la même approche de la négociation. Ça, c'est pas facile. Il faut se rendre compte d'un truc, c'est que un Asiatique, donc un Japonais, ne te dira jamais non dans une discussion. Mmh. Il va plutôt faire durer la discussion des mois jusqu'à ce que ce soit toi qui te lasses. Donc c'est vraiment des concepts à appréhender, c'est pas évident. Mais bon, voilà, maintenant, je n'ai pas travaillé en Asie. J'espère que le projet pour lequel j'ai été contacté va se faire, et avec moi évidemment. Sinon, voilà.
Alors, on parlait de concept designer... Peut-être que ça ne parle pas forcément comme terme. Concrètement, quel a été ton taf sur différents parcs ou, je ne sais pas si tu as des exemples à donner. On parlait tout à l'heure des attractions du parc Astérix.
Si on parle par exemple de la trace du Hourra, le directeur artistique du parc m'a contacté et m'a dit « Bon ben voilà, on sait quel type d'attraction on va faire. » Parce qu'il y a quand même tout un travail. Les gens se disent « Ouais, les parcs vont acheter les attractions. » Non, il y a quand même un gros travail de réflexion en amont qui peut parfois durer plusieurs années. Je fais une parenthèse, si on prend le Transdémonium par exemple qu'on a ouvert en 2003, nous le travail de réflexion l'avait démarré en 1996. Donc il s'est quand même écoulé 7 ans avant que l'attraction n'ouvre, et sachant que sur ces 7 ans, il y a eu 2 ans de travaux. Mais pour la trace du Hurrah, par exemple, ils savaient, eux, qu'ils avaient besoin d'un coaster familial. Ils ont... Donc, il y avait des études de marché, des études marketing. Ils ont contacté Mack, donc, qui leur a fait le tracé du bobsleigh à l'endroit où le parc avait prévu de l'installer. Et après, nous, on s'est mis au travail sur le scénario. Alors, il y avait un challenge particulier à l'époque dans les équipes créatives du parc Astérix, c'est qu'on nous demandait justement de ne pas utiliser Astérix. C'est qu'il fallait... trouver des biais, des astuces, des chemins détournés de pour rester dans l'esprit d'Astérix, mais ne pas utiliser le thème d'Astérix, qui a changé. Moi, je travaillais avec une équipe créative qui est partie en 2006, ce qui explique que je travaille moins pour le parc Astérix, même plus du tout. J'ai travaillé encore un peu avec la Compagnie des Alpes au cours des dernières années, mais plus pour le parc Astérix. Et donc à l'époque, on pouvait pas utiliser Astérix parce que moi j'avais bossé, je m'étais dit tiens, ça pourrait être marrant que ce soit par exemple les druides qui se réunissent dans la forêt des Carnutes et qui font des inventions. Alors j'avais pensé qu'ils inventeraient le surf, qu'ils inventeraient les courses de voitures, des choses comme ça. C'était un peu ce côté-là. Donc c'était l'univers d'Astérix sans utiliser réellement Astérix. Et puis petit à petit, on s'est dit mais quel serait, par exemple, on parle de nos ancêtres les Gaulois, et puis on en est venu à se dire mais quels étaient les ancêtres de nos ancêtres les Gaulois. Et donc c'est de là qu'est partie cette idée de tribu un peu préhistorique et du hurrah qu'ils ont poussé le jour où ils ont pu dévaler les pentes assis sur leur derrière, quoi, grosso modo, c'est ça. Donc à partir de ça, on a écrit un scénario, un synopsis général de l'attraction, et moi on m'a confié en fait le synopsis de la file d'attente. D'accord. Donc, trouver tous les petits détails, vous voyez, les sculptures dans les bas-reliefs, il y a un chasseur qui poursuit des mammouths, et vous continuez la file d'attente un peu plus loin, c'est les mammouths qui poursuivent les chasseurs, et ainsi de suite. La grosse tapette à souris, par exemple, c'était des choses qu'on avait déjà mis dans le scénario avec le directeur artistique. Voilà, donc c'est tout ce travail-là. Il y a faire des croquis aussi, c'est intéressant. Alors après, soit vous rendez votre copie. Hein, pour la trace du Hurrah, mon travail s'est arrêté là. Soit, comme c'est le cas pour le Transdémonium, bah vous continuez, c'est-à-dire que vous accompagnez tout le chantier et pour faire en sorte que le travail artistique et technique soit cohérent. Moi, je suis un vrai geek, donc la technique, ça me passionne, l'ingénierie, ça me passionne, mais j'ai une formation artistique. Donc j'ai pu, c'est pour ça aussi que Astérix m'avait engagé sur ce projet, c'est que j'ai pu lier un petit peu les deux. Et puis il faut aussi appeler un chat, c'est qu'un chantier d'une attraction, c'est énormément de compromis. C'est que quand on vous dit on va faire un train fantôme, mais il faut que ça fasse peur, ah ouais, tu te dis génial, super, mais oui, mais il faut que ça fasse peur aux 6-9 ans. Alors là, déjà, tu calmes un peu tes ardeurs, donc c'est aussi. C'est aussi un peu compliqué. C'est pas, on part dans tous les délires qu'on veut imaginer. Non, déjà, y a déjà ce type de réflexion. Puis après, il faut se dire, qu'est-ce qu'on a comme budget et qu'est-ce qu'on peut faire pour ce budget-là. Voilà. Donc, le travail de concept designer, ça englobe ça. Mais ça peut aussi être travail que j'ai fait aussi pour Babyland, c'est de projeter le parc, à quoi ressemblera le parc dans 20 ans. Et donc, de dessiner un parc conceptuel, de se dire quel type d'attraction on va... Sans précisément dire ça va être, je sais pas, un coaster de Mack ou un truc comme ça, non. Dire là, il y aura un coaster familial, là, il y aura une attraction aquatique, ainsi de suite. Voilà, ça englobe un peu tout ça. Mais ça peut aussi être du travail graphique, travail sur des logos, ou c'est ou travail sur la déco d'un magasin, voilà.
Ok, Sylvain, je crois que tu as des questions.
Oui. Alors, j'ai une question de Jas qui dit, quel a été ton plus grand chantier, trois petits points, projet?
Le plus grand chantier en termes de superficie, ça a été donc le parc Admiral Wrangel Adventure Park en Russie, puisque c'était un site qui mesurait pas loin de 30 hectares. Pareil, là, les gens qui voulaient construire le parc, ils revenaient d'Island of Adventure, et moi je revenais de Tokyo Disney Sea, justement. Tu vois, et ils ont commencé à me dire, ouais, on veut faire ça. Et comme ils étaient constructeurs d'attractions, en fait, ils voulaient copier Mack. Ce que Mack a fait à Europa Park, c'est grosso modo se construire une vitrine pour leurs attractions. Mon premier boulot, ça a été en fait de visiter le site sur lequel ils projetaient de faire le parc et de leur dire, voilà, vous avez tel budget, voilà ce qu'on peut faire. Et en fait, je les ai amenés à créer sur une très grande surface, parce que c'était un assez grand site forestier, quelque chose qui ressemble plus au jardin d'acclimatation qu'à Islands of Adventure. Mais c'est vachement bien, hein, déjà. Donc, en termes de superficie, c'est ça. Évidemment, j'ai énormément d'affection pour le chantier du Transdémonium, parce que c'est un projet qui m'a tenu pendant plusieurs années. On a démarré en 1996, on a ouvert l'attraction en 2003, on est revenu y travailler en 2004, on a rajouté des effets, Et voilà, et l'attraction continue à vivre. D'ailleurs, si, ce serait génial si on pouvait y retourner, tu vois, peut-être un petit peu la moderniser, je ne sais pas, faire peut-être un jeu de tir à la façon de, du Laser Blast qui est à Disneyland Paris. Enfin, voilà, ça, c'est une idée en l'air. Maintenant, j'ai aussi une affection très particulière pour un coaster en bois sur lequel j'ai travaillé, qui était le Dania Beach Hurricane en Floride, avec feu mon ami George Leb, qui était mon agent aux États-Unis à l'époque. Et c'est parce que c'était un super gros coaster en bois, donc c'était le kiff absolu, quoi. Donc là, le boulot, ça a été de prendre le travail des ingénieurs et de faire des dessins conceptuels pour le parc, pour présenter et montrer ce à quoi le coaster ressemblerait. Je vous parle d'une époque où la simulation informatique n'était pas super accessible. C'était un outil très, 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 très lourd. Aujourd'hui, je ne parle même pas de nos limites, qui est le système de simulation très, très souvent utilisé. Mais si vous prenez Planet Coaster, le jeu qui vient de sortir, on peut très, très facilement créer une vue conceptuelle d'un coaster avec Planet Coaster. À l'époque, il fallait se taper des maquettes en calque et puis après, on faisait des dessins en crayon. Hein. Je ne veux pas faire mon vieux con un peu, mais voilà, c'était comme ça qu'on bossait.
Sylvain, est-ce que tu as d'autres questions ?
Oui, alors j'ai une question et une remarque de Gaijin Girl Tokyo qui dit un super métier de garder son âme d'enfance.
Ah ouais, ouais, super, et c'est un métier, non, c'est une passion que je transmets à ma fille qui a 10 ans. Qui souvent avec qui je discute, qui me pose des tas de questions. Là, elle est super contente parce qu'elle a été interviewée par le magazine First Drop à propos de Timber à Walibi-Rhône-Alpes, le nouveau coaster en bois. Cette année, j'ai eu le bonheur de lui faire découvrir Orlando. Elle a encore les yeux écarquillés, gros comme ça. Donc, elle ne rêve que d'une chose maintenant, c'est que je l'emmène en Californie à Magic Mountain. Donc ouais, c'est je garde mon âme d'enfant, mais c'est quand même un business, hein. Je veux dire, c'est un métier que j'exerce en parallèle avec mon travail dans l'audiovisuel, parce que je fais pas mal de prod, d'effets spéciaux encore dans l'audiovisuel. Mais c'est le même boulot, en fait, hein. Je fais une parenthèse, c'est que moi, j'étais graphiste de formation, je suis allé bosser pour le cinéma, j'ai eu le coup de foudre pour les parcs de loisirs dans les années 80. Mirapolis n'était pas ouvert encore, mais ça commençait à fleurer. On parlait de Disney à Paris, alors là, c'était phénoménal, je n'en revenais pas. Je suis parti aux États-Unis, je suis tombé sur les fesses en découvrant les parcs. Et puis, je me suis dit, mais c'est quand tu bosses pour le cinéma, que tu conçois, que tu produis, que tu dessines, que tu écris, bah, c'est la même chose que pour les parcs. Exactement le même métier, le médium est différent. Mais ce qui est passionnant dans les parcs, et ça, une fois que tu as bossé dans les parcs, c'est très difficile de t'en écarter, c'est que tes spectateurs, c'est aussi tes acteurs. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial, parce que tu mets tes spectateurs au cœur de l'action que tu as conçue. Et ça, c'est absolument passionnant.
J'ai une autre question de Pakun qui demande si tu as visité des parcs au Japon et qu'est-ce que tu en as pensé.
Alors, j'ai visité plein de parcs au Japon. En fait, je suis allé 5 ou 6 fois au Japon. Le premier voyage, je suis resté plus d'un mois et on l'a organisé en allant de parc en parc. Alors, on n'a pas fait que ça parce qu'il faut quand même souffler un peu et puis tu vas au Japon, c'est pas uniquement que pour faire ça. Mais tu vois, rien que Tokyo, il y a une vingtaine de parcs dans la préfecture, la région de Tokyo, il y a 20 parcs. À Tokyo même, parce que Tokyo Disney Sea, le Tokyo Disney Resort, il est à 15-20 km, même si c'est toujours la préfecture de Tokyo, mais dans Tokyo, en ville, il y a des parcs. Il y a le Tokyo Dome, on en a parlé tout à l'heure, avec le magnifique coaster Intamin, Thunder Dolphin, et jadis c'est un parc qui s'appelait Korakuen. Moi je l'ai visité avant que Thunder Dolphin soit construit, et c'était un petit parc d'attractions en centre-ville. Il y a Anayashiki qui est le parc le plus vieux du Japon, qui est à Asakusa. Il y a Toshimaen qui est au nord de Tokyo, il y a Tobu qui est un zoo magnifique dans lequel il y a un extraordinaire coaster en bois et un très beau coaster métal, un Intamin Megalite, qui est un peu le modèle qui a servi d'inspiration à l'Alpina Bliss de Nigloland. Il y a Yomiuri Land qui est vraiment génial avec The Bandit, qui est presque un méga coaster, mais pas très loin, construit par Togo. Et puis un peu plus loin, effectivement, Fuji-Q. Fuji-Q, c'est à 1h30 de Tokyo. Il y a il y a un car qui va directement à Fuji-Q, c'est très très pratique une fois qu'on a pigé ou le choper. Et puis voilà, donc, mais un de mes parcs préférés par exemple n'est pas sur, sur l'île de, où se trouve Tokyo, il se trouve sur l'île, sur Kyushu, quoi, qui est, dites-moi si je me trompe, qui est l'île la plus au sud de l'archipel. C'est un parc qui est à Beppu. Beppu, c'est ma ville préférée au Japon, c'est une ville thermale, géniale. Je crois qu'il y a 6500 sources chaudes à Beppu, ce qui fait que dans presque chaque hôtel, tu as tes onsen tranquilles. Et les onsen, donc, c'est les bains brûlants, là, formidables. Ça, c'est une belle civilisation, c'est la civilisation du bain, c'est top ça. Au-dessus de Beppu, qui est donc à flanc de montagne, il y a un parc qui s'appelle Kijima. Et à Kijima, il y a un très beau coaster en bois aussi. Et voilà, donc les parcs, j'en ai vraiment visité beaucoup. Je suis allé une fois à Okinawa. Donc là, c'est vraiment l'île la plus éloignée qui soit de l'archipel. Donc ça, c'était une époque où il n'y avait pas encore vraiment beaucoup d'Internet. Trouver des informations, c'était pas top. Je savais qu'il y avait une espèce de parc national dans Okinawa où il y avait un coaster en métal. Je suis allé séjourner sur l'île, c'était formidable. La patrie du karaté, c'est quand même passionnant pour ceux qui ont vu à Karate Kid, voilà, c'est de là que ça vient. Avec mon épouse, on a pris des trains, des bus, on a fini par un taxi, on a traversé la jungle en taxi pour atteindre le truc, et on est arrivé, le coaster il était en train d'être démoli.
D'ailleurs, je crois qu'il t'est arrivé aussi une autre aventure dans ce fameux plus vieux parc de Tokyo aussi.
Ah oui. je vais dire un truc, David, on va faire un petit peu de synergie. Pour la mésaventure qui m'est arrivée, que tes fidèles spectateurs aillent donc consulter mon interview sur le site Mission Japon.
Puisqu'on a déjà fait une interview écrite
j'y raconte ce qui m'est arrivé. Mais c'est une mésaventure fâcheuse, comme quoi certaines structures ne sont peut-être pas prévues pour les gros gaijins de mon espèce.
C'est ça. Alors, on parlait tout à l'heure des parcs Disney et des parcs Universal, mais donc ça, sont les parcs importés. Existe-t-il, selon toi, des spécificités nippones en parc d'attractions ?
Alors, oui. Alors, il y a un truc qui m'a vraiment emballé, je ne vais pas dire choqué, parce que ce serait quand même malheureux, c'est qu'ils sont très, très fans de maisons hantées, trains fantômes, etc. Mais c'est super graphique. C'est super gore, super violent, j'adore ça, c'est vachement bien. Donc dans tout le parc, même par exemple au studio de comment ça s'appelle, de qui se trouve je crois que c'est à Kyoto, où il y a les studios de Lato, ou à Osaka, je ne sais plus, il y a un petit parc d'attractions, une petite maison hantée, et même là, il y a des jets de sang partout. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, quand je suis allé à Fuji-Q, donc moi, c'était pour l'ouverture de... Qu'est-ce que j'étais allé voir ? Non, à Fuji-Q, j'étais allé tester le Fujiyama, le coaster en métal, qui est vraiment chouette. Au milieu du parc, il y a ce qui ressemble à l'ancien hôtel du parc. Il y a un tout nouvel hôtel qui a ouvert à l'entrée, mais au milieu du parc, il y a un ancien hôtel, donc un bâtiment de 3 ou 4 étages régi en étoiles, avec une colonne centrale technique où il y avait les ascenseurs, etc. Et en fait, on a découvert qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'était, d'après le livre Guinness des records, la maison hantée la plus grande du monde, et qu'ils avaient transformé en hôpital hanté. Et le truc, c'est qu'on vous y fait passer deux par deux. Donc déjà, tu n'as pas le réconfort du groupe, on va dire. On te donne une toute petite lampe électrique qui, curieusement, ne marche pas très bien. Et tu rentres, et surtout, c'est un vrai labyrinthe. Souvent, ces maisons hantées, c'est un chemin assez linéaire, tracé d'avance. Là, non, c'est... Voilà, tu rentres là, démarre-toi pour trouver la sortie. Il a fallu 45 minutes pour trouver la sortie. C'est mortel, mais vraiment génial.
On parlait des attractions, il y a également des concepteurs d'attractions. Tu parlais tout à l'heure de Togo, qui est un concepteur de roller coaster, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que les concepteurs d'attractions japonais sont aussi cotés que les concepteurs d'électronique grand public japonais ?
On va pas dire ça, non. Togo a eu une heure de gloire à l'international dans les années 90. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Togo est l'inventeur du stand-up coaster.
D'accord.
Voilà. Donc, les premiers stand-up coasters, c'est la société Togo qui les a réalisés. Et on les trouvait Aux États-Unis, il y en a eu trois, je crois. Kings Island, Kings Dominion et peut-être Carowind, je ne sais plus exactement. Ils ont fermé petit à petit. Je me demande s'il n'y en a pas un qui est en train d'être remonté ou qui a été remonté l'année dernière en Italie.
Ah bon ?
C'est à vérifier, ça. Hein. Allez sur RCDB et vous trouverez probablement la réponse. Mais voilà. Donc, et c'était assez chouette. Et après, ils ont fait quelques coasters à looping. On se souvient de l'incroyable Viper à Six Flags Great Adventure, très court mais assez violent. Ils ont fait alors quand il a ouvert, il s'appelait le Manhattan Express, qui est à l'hôtel New York, New York à Las Vegas, qui est vraiment violent. Sauf à l'ouverture, il était vraiment pas mal. Donc voilà. Donc on ne va pas dire que les Japonais soient spécialement réputés pour la qualité de leurs coasters.
D'accord.
Ils font des tas de trucs très bien, ouais,
mais pas ça. Moins.
J'ai essayé certains trucs où tu te dis finalement, je crois que je préférerais me faire arracher une dent chez le dentiste. Tu vois.
Des coasters harakiri.
Voilà. Oui. Tu ris pas trop à la sortie, quoi. C'est...
J'ai une très bonne question de Pakoun qui demande si tu avais carte blanche, sur quel thème te lancerais-tu pour faire un parc ?
Ah waouh !
La grande question.
Ah la vache ! Très bonne question, merci. C'est-à-dire que tout a été fait franchement, alors là, c'est une vraie colle, quoi. C'est une question que je me suis pas posée. Alors ça, c'est peut-être la déformation, c'est que je commencerai déjà par me poser et me dire où sommes-nous installés, comment est le terrain, comment est le site, comment c'est boisé, et à partir de là, je commencerai peut-être à réfléchir sur le thème. Je ferai probablement pas un thème de SF parce qu'on sait tous. Que, par exemple, la SF, c'est un truc qui se démode très vite en termes d'architecture et de design. Maintenant, effectivement, les pirates, le western, c'est archi, archi, archi utilisé, même si c'est efficace. L'intérêt, par exemple, du western, c'est que c'est facile à faire, quoi. C'est quand même du travail du bois. Maintenant, si je fais un parallèle, si j'avais carte blanche, j'aimerais bien faire un truc du niveau, de la qualité, du « ah waouh » de ce qui a été fait sur Harry Potter, sur les deux parcs Universal en Floride. C'est juste renversant, c'est incroyable, et c'est une qualité d'immersion dans l'univers des livres et des films qui est juste exceptionnelle. Quoi. Donc j'irais peut-être vers quelque chose comme ça, vers un style un peu victorien, ça me botte vraiment. Quoi.
Land qu'on retrouve également dans les studios Universal d'Osaka.
Oui, mais ce n'est pas la même ouais. taille.
Pour résumer un petit peu, on a parlé d'énormément de parcs au Japon. Quels seraient pour toi les incontournables d'un japonais parc-note qui a quelques semaines de visite du Japon ? Qu'est-ce qu'il ne devrait pas rater selon toi ?
Ah bah, alors on va tout de suite dire, vous allez à Tokyo Disneyland, vous allez à Tokyo Disney Sea. Je suis d'accord avec Yves, Tokyo Disney Sea, c'est pour moi en termes de thématisation, le parc le plus beau du monde, le plus détaillé, le plus réussi. Maintenant, ce qu'il ne faut pas rater, faut aller à Fuji-Q Island. Faut s'armer de patience parce que le système de gestion des files d'attente est quand même pas tip-top. Donc ça peut être un peu agaçant. Faut aller à Osaka. Le plus gros parc, avant l'ouverture d'Universal, le plus gros parc d'Osaka, c'était Expo Land. Il n'est pas totalement décédé, parce que si vous allez à Metz, à Walligator, le Monster, en fait, qui est le clone du Raptor de Cedar Point, il était à Expo Land. Moi, c'est là-bas que je l'avais essayé, avant qu'il vienne s'installer en France. Ensuite, évidemment, Nagashima Spa Land, il faut absolument tester Steel Dragon. Je crois qu'à Nagashima Spa Land, il reste aussi un Ultra Twister de Togo, qui est un truc ahurissant, avec les wagons qui se vrillent à l'intérieur d'un espèce de tuyau. C'est assez étonnant. Si vous pouvez aller jusqu'à l'île de Kyushu, il y a Kijima à Beppu. Il y a encore pour un an ou deux Space World à Fukuoka, mais il est question que le parc ferme. C'est les incontournables. Après, comme je vous dis, t'as l'impression que le Japon, c'est un parc d'attractions à l'échelle d'un pays, quoi. C'est les attractions à tous les coins de rue. Tu rentres à Tokyo, tu rentres dans un hôtel, il y a une tour de chute libre. Sur le toit, il y a une grande roue. Enfin voilà, il y a toujours de quoi s'amuser, même si tu fais de la visite ou du shopping.
Et de façon plus globale, en Asie, est-ce qu'il y a d'autres parcs d'attractions qui te semblent dignes d'intérêt ?
Ah bah oui, il y a Lotte World à Séoul, en Corée.
Donc avec une grande partie indoor. Hein.
Et ouais, et pour lequel j'ai travaillé, ils ont une madhouse, tu sais, un truc comme les Espions de César au parc Astérix, et comme Villa Volta, Efteling, pour moi Villa Volta c'est la référence, puisque ça avait été conçu par Klosterman Design, qui était la boîte allemande d'effets spéciaux avec laquelle je travaillais à l'époque. Donc oui, il y a celui-ci, effectivement, qui est incontournable.
D'accord. Le Disneyland de Shanghai, tu en as entendu parler ?
Alors, j'en ai entendu parler que c'était un peu la foire d'empoigne, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. C'est pas sur mes plans de visite dans l'immédiat, mais un jour peut-être, ouais. Parce qu'à l'époque, à une certaine époque, je pouvais me targuer d'avoir visité tous les parcs Disney du monde. Mmh. Bah, maintenant qu'ils en ouvrent tous les 4 matins, ça devient plus difficile, quoi.
Donc le deuxième à Hong Kong, tu l'as pas visité non plus ?
Non plus, non, non.
D'accord. Ce sera certainement...
À Hong Kong, il y a Ocean Park aussi qui vaut le détour.
D'accord. Ce sera certainement ma dernière question, sauf si dans le chat il y en a d'autres.
J'ai fait un appel aux questions, mais il n'y en a pas pour l'instant.
D'accord. Parmi les nouveautés dont tu as entendu parler pour cette année ou les années à venir, lesquelles te font le plus envie au Japon ou ailleurs dans le monde ?
Alors bah, on va dire ailleurs dans le monde, évidemment, j'attends avec impatience Pegasus Express au parc Astérix.
Ça, c'est cette année ?
Oui, ça ouvre donc là au printemps prochain. J'attends le gros coaster qui arrive à Blackpool l'année prochaine. Voilà, mais en fait, comme Yves, maintenant je ne vais plus nécessairement dans les parcs pour comptabiliser les coasters. J'ai fait plus de 500 coasters et j'ai arrêté de compter il y a 15 ans, donc je ne sais pas combien j'en suis. Maintenant, j'aime vraiment profiter de l'expérience. L'année dernière, je suis retourné à Europa Park, je bossais à Strasbourg, j'avais une journée, je suis allé à Europa Park. Et ben, alors pour moi, c'est mon parc préféré en Europe. Le fait, tu vois, d'aller m'acheter, me prendre un café, de m'asseoir en face de la zone portugaise où il y a le splash, et puis tu vois dans le fond Wodan, le coaster en bois, et je suis resté une heure et demie là juste à regarder, et c'était bien, il y a des fleurs, les gens avaient l'air contents, enfin tu vois, ce type d'expérience me plaît autant maintenant que d'aller à tout prix faire du coaster.
D'accord, c'est
bon. Donc voilà, donc moi j'aimerais retourner à Liseberg, ça fait quelques années que j'y suis pas allé, pour essayer Ilix. Je n'ai jamais visité Grönland en Scandinavie, donc je voudrais aller voir ça aussi à l'occasion. Puis cette année, il y a quand même Ferrari Land qui ouvre à Porta Ventura, donc ça ouais, à mon avis, ça vaudra le détour.
Je ne sais pas s'ils vont prendre du retard avec l'incendie qu'il y a eu il n'y a pas longtemps.
Ouais, mais bon, on garde espoir.
En tout cas, ouais, c'est, sur papier, ça a l'air d'être assez exceptionnel.
Ouais.
J'ai une question de Nihon Nokuni qui demande quel parc Disney préfères-tu ?
Ah bah Disney, si.
Alors, voilà, question courte. Disney,
j'adore le Disneyland original en Californie, parce que c'est dans ce parc-là que j'ai découvert la magie des parcs Disney. J'aime bien le parc de Marne-la-Vallée parce que j'étais là le jour d'ouverture et qu'à cette époque-là, j'allais voir le parc 3 fois par semaine et c'était passionnant. Maintenant, je suis un petit peu lassé, donc j'espace mes visites.
Et qu'est-ce qu'on y mangeait bien à l'époque ?
Ah là là. Le restaurant Walt sur Main Street, c'était incroyable, quoi. Donc voilà, Disney Sea, en termes de thème, c'est vraiment le parc que je préfère des parcs Disney.
Eh ben, on va rester là-dessus. On a fait une boucle, de toute façon. C'était la bonne réponse qu'il fallait donner.
Regarde, je voulais montrer à tes spectateurs. J'ai ramené de Disney Sea à l'ouverture du parc. Ils vendaient. Hein, je ne l'ai pas piqué, attention, je ne l'ai pas piqué. Ils vendaient les anneaux de voyageurs du monorail. Avec les oreilles du Mickey. Et je trouve ça génial. Souvent, il y a quelqu'un qui a un trait de génie comme ça au service merchandising. Tu as l'impression de rentrer chez toi avec un morceau de l'attraction. C'est quand même super. Et c'est dommage que ce soit pas plus souvent qu'on puisse acheter des objets comme ça.
Ah, c'est génial. Et ça ils l'ont fait qu'au tout début et ils le font plus.
Alors si vous l'avez pas vu, c'est qu'ils ont arrêté de le faire. Mais ça c'était vraiment, je suis allé, ouais c'est ça, j'ai dû y aller en 2002 peu de temps après l'ouverture, je crois que ça a ouvert en 2001, et ça c'était en vente.
Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir parlé avec passion des parcs et de nous avoir donné plein d'idées pour de futures saisons de Mission Japon. Jean-Marc, merci beaucoup, à bientôt j'espère.
Merci à vous.
Et bonne salut, journée Nara. Et bonne visite au parc à venir. Les Japonotes, on vous salue bien bas. Merci d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui nous regarderont en replay. Merci beaucoup. Bonne journée, bon dimanche. À bientôt.
Salut.
Bye.